Et si ces gens-là qui portent des tissus tentures, je peux donner les références si vous voulez, parce qu'apparemment ça suscite beaucoup d'intérêt. Si on dérange tant que ça, si on ne veut même plus nous voir, je veux dire, la région compte 19 communes, ben, si à Molenbeek apparemment c'est très invivable, ben, changez de bord quoi, allez-y ailleurs, dégagez.
On vient d'entendre Salia Rice, élue à Molenbeek. Et c'est bien dit. Et puis on écoute aussi la réplique du vendredi, trouvée sur le net, bien entendu. Et je le répète, ça n'a pas forcément de lien avec le micro ouvert. C'est une petite plage comme ça, qui n'a pas à voir, qui a à voir, à vous de voir. Mais normalement, qui n'a rien à voir.
Oui, c'est exactement ce que le client recherche. Curriculum vitae excellent, rien à dire sur le bilan des compétences. Le seul détail gênant,
oui,
c'est que vous soyez actuellement sans emploi.
À vrai dire, c'est pour ça que je suis là.
Non, j'entends bien, mais pour le client, l'aspect demandeur d'emploi a une connotation plutôt négative.
Je comprends, mais enfin, faut être logique que si j'avais un travail, j'en chercherai pas, je veux dire.
Vous savez, la logique aujourd'hui.
Je vais me faire embaucher ailleurs et j'en viens vous voir après.
Micro ouvert.
On démarre, 1, 2, 3. Le micro ouvert est parti là, il démarre hein, la rentrée, tout ça. Je suis un petit peu moins à l'aise du coup, mais ça va, ça revient. En face de moi, c'est Alexandre Michotte, c'est comme ça qu'on t'appelle.
Exactement. Alors moi, c'est Alexandre Michotte, 29 ans, anthropologue, passionné d'Afrique et impatient de discuter avec vous.
Voilà, moi j'avais envie de te contacter et c'est toujours classe parce que ça marche, hein, on contacte les gens, ils répondent et puis soit ils disent oui, soit ils disent non. Là, on a compris que tu avais dit oui. Et du coup, c'est pour un poste que Mukuna avait mis sur le Congo et toi, tu avais mis un énorme commentaire. Ben voilà, on peut peut-être juste en parler. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réagir comme ça avec un si long poste?
Ben, tout d'abord, c'est le panafricain que je suis depuis l'enfance. Je vois justement une information générale en Belgique qui parle énormément de Gaza, à juste titre, qui parle énormément de tous les conflits ukrainiens, etc. Mais le conflit au Congo, RDC, est très flouté, on en parle très peu. Et donc c'est cette motivation-là qui m'a permis de parler, de témoigner justement de ma petite expérience par rapport au combat qui se mène aujourd'hui au Kivu, à Goma, et un peu partout dans la zone des Grands Lacs. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir par rapport justement à cette guerre internationale. Ce n'est pas juste une guerre, c'est important de dire régionale, c'est une guerre internationale.
Bah, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi tu dis que c'est une guerre internationale?
Alors,
et pourquoi on en parle? Bon, moi je fais ma naïve à deux balles. Hein. Pourquoi on en parle si peu, cher monsieur?
Ben, tout d'abord, je vais prendre une citation que j'aime beaucoup de mon père spirituel, qui est Malcolm X. Et qui disait « Les médias ont cette fabuleuse capacité de faire passer la victime pour le coupable et le coupable pour la victime. » Et donc, il y a vraiment cette idée-là de retournement et du manque, justement, d'intérêt. Quand on dit international, c'est en général occidental. C'est pas africain, c'est pas les pays du Sud. Et donc, dans ce cas-ci, la vie d'un noir vaut moins que celle d'un blanc ou que celle d'un arabe, par exemple. Et donc, ça, c'est une réalité qu'il faut de près entendre. L'histoire nous le démontrera. Je pense que je vais revenir sur quelques points historiques, quelques faits, parce que j'aime beaucoup les faits. Et donc, la réalité, c'est que c'est international parce que les intérêts, premièrement politiques, les intérêts économiques et surtout les intérêts environnementaux sont vraiment concentrés au Congo, RDC. Le Congo est un des pays les plus vastes, 2 millions de kilomètres carrés, c'est équivalent à peu près à 5 fois la France, quasiment la moitié de l'Europe. Donc, au niveau géographique et au niveau démographique, on ne se rend pas compte des intérêts qu'il y a derrière les intérêts et la guerre qui se déroule au Congo. Alors, qui sont les acteurs? Tout d'abord, il y a les instances, comme on appelle les Nations Unies, l'ONU. Il y a les plus grandes institutions qui financent ce conflit. Comment? Notamment en cooptant certaines personnalités telles que Monsieur Paul Kagame, qui est un mouton, un toutou de la France-Afrique, et donc qui est un pion, justement, de Washington. Puisque cet homme,
qui ce monsieur?
Monsieur Paul Kagame est actuellement le président, en tout cas président par, je dirais, procuration de l'Europe et des États-Unis dans ce cas-ci. Donc il a été élu, non pas démocratiquement. Chaque année, en tout cas, chaque quinquennat, c'est 95% des voix. Donc ça me semble un peu déjà louche. Après, c'est bien possible. Mais l'histoire nous démontrera qu'après le génocide qui était en quelque sorte polarisant en Europe, en Afrique, un peu partout, par rapport justement au génocide qui s'est déroulé en 94-95 au Rwanda. En fait, on a eu une vision très, je dirais, fantasmée, justement, du salvateur Paul Kagame. Et donc, il y a cette idée-là qui est rentrée dans les récits ici en Belgique, où on parle. Et donc, il y a vraiment cette idée que Paul Kagame serait le Messie. Actuellement, on se rend compte depuis une quinzaine d'années qu'il est en fait un bourreau dans cette zone qui est la zone des Grands Lacs. Comment ? Tout d'abord, faut prendre, je vous parlais du Congo RDC qui fait 2 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une équivalence, pour les habitants belges, la Belgique fait 34 000 kilomètres carrés. Donc déjà, on voit déjà que les géographies sont monumentales. C'est un continent à lui tout seul. Il détient toutes les réserves de la planète, toutes les réserves en minerais, matières premières, etc. Et ça, nous le savons. Quand je dis nous, c'est un nous impersonnel. Nous le savons en tant qu'occidentaux, c'est que le Congo, avant d'être ce grenier mondial, c'est un poumon écologique, environnemental, etc. Et donc, M. Paul Kagame, pour revenir sur lui, est le propriétaire, on va dire ça comme ça parce que je n'aime pas président, est le propriétaire du Rwanda, qui est un tout petit pays par rapport au Congo. Et donc, on peut se poser la question, en tant que spectateur neutre, comment se fait-il qu'un si petit pays puisse totalement déstabiliser un pays tel que, un continent tel que la RDC ? Alors, je pense que là, je vais revenir avant toute chose sur les faits historiques qui se sont déroulés dans cette zone-là pour un petit peu contextualiser. Tout d'abord, l'Afrique, en 1884 et 85, a subi ce qu'on a appelé la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a découpé, a balkanisé, donc a totalement dissous les communautés qui vivaient sur le continent africain. Le continent africain, actuellement, si on doit parler contemporainement parlant, fait 55 pays. Il y a 55 pays. C'est le continent le plus diversifié où il y a le plus de pays. Et donc, 1884 à 85, cette période, différentes personnes se sont réunies. Aucun Africain, bien entendu. Différentes personnalités publiques, telles que Bismarck, telles que les empires de France, etc., etc.
Ouais, tous des blancs, quoi.
Occidentaux. Et la Russie, notamment. Et du coup, par rapport à cet événement, le continent africain a subi un morcellement. Donc, toutes les communautés, comme au Rwanda, comme au Congo, comme en Éthiopie, etc., ont subi justement cette fracture sociale. Et donc, tous les peuples africains vont être dissous, vont être annihilés de leur histoire. Alors, l'histoire qui remontait déjà à des millénaires. Et donc, à partir de cet événement-là, il va y avoir la création, donc en 1895, de l'État indépendant du Congo, l'EIC, sous le règne de Léopold II. Donc, ce monsieur, roi des Belges, va insuffler une dynamique coloniale, violente, répressive, dans toute la zone du Congo. Il va s'approprier, grâce notamment à cette conférence, le Congo. Alors, c'est assez amusant.
Alexandre, je te coupe, je sais que c'est pas... Mais tout ça, on sait maintenant, aujourd'hui, non ?
Vaguement.
Dans certains milieux, c'est et puis ça. Si on a envie de le savoir aussi, parce qu'il y en a, ils veulent rien savoir, rien entendre.
Et donc, je pense qu'effectivement, on ne le sait pas, ou on le sait peu, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le savoir. Ça, c'est une première étape.
Peut-être que ce que moi, j'aimerais... Peut-être qu'on aborde, c'est on dit qu'il y a eu l'indépendance, mais enfin l'Afrique maintenant est indépendante. Ce sont les Africains qui gèrent l'Afrique en gros. Et ça c'est peut-être intéressant de comprendre que il n'y a jamais eu vraiment d'indépendance, que tout ça c'est du chiquet quoi.
Exactement. Donc les indépendances pour vous représenter, c'est les soi-disant les, entre guillemets les indépendances de 1960 qui sont en fait une préparation à ce qu'on appelle la néocolonisation. Et donc, actuellement, le Congo subit, et l'Afrique en général et les pays du Sud global, donc l'Asie notamment, l'Amérique latine, subissent le même sort. C'est que les décisions économiques internationales sont détenues par les grandes institutions. À Londres, Bruxelles, Paris, etc., Washington, etc., et toute la bande à yo-yo. Et du coup, 1960, ce leurre a permis, en tout cas, aux États-Unis de faire ce qu'on a appelé, dans ce cas-ci, le McCarthyisme, la chasse aux communistes. Et donc, un peu partout dans le monde, il va y avoir une occidentalisation, une américanisation de la planète. C'est pour ça que vous retrouvez sur votre table, je dis toujours, le ketchup, le coca et le sucre. Trois, justement, matières que les États-Unis affectionnent et ont distillées dans notre économie et dans notre philosophie de vie. Et donc, Bruxelles, QG de l'américanisation, subit elle-même les décisions économiques et politiques. Et du coup, par rapport aux années 1960, les pseudo-indépendances, il va y avoir différentes têtes pensantes qui vont élire, ou en tout cas qui vont choisir sélectivement bien entendu, des personnalités politiques, telles que Mobutu. Là, je parle du cadre du Congo, telles que Kabila, etc. etc.
Qui sont corrompus, quoi.
Pour la plupart, corrompus. Et donc, qui ont vraiment une vision qui n'est pas la leur, qui est une vision cupide, en général, du continent. Puisqu'ils ont été formés dans les meilleures universités occidentales. Ils vont être formés, notamment comme M. Paul Kagame, pour revenir sur le Rwanda, vont être formés à Washington, vont être formés dans les plus grandes universités, ce qu'on appelle « grandes » entre guillemets. Ça pour dire qu'actuellement, nous subissons, en tant que citoyen lambda, les résultats de cette, je dirais, annihilation du monde. Nous ne sommes plus personne. Et c'est ça, en fait, que ça veut dire. Alors la guerre peut nous paraître totalement lointaine, mais elle est très proche. Chaque jour, vous consommez...
Ma père, quand tu dis « nous ne sommes plus personne », tu parles du continent africain, des gens ?
Je parle de tout le monde. Je parle de qu'on soit en Occident, qu'on soit peu importe, un habitant de la planète. Pourquoi ? Parce que nous sommes dénaturés. Nous sommes déracinés de notre propre nature. Et du coup, c'est ça que je veux dire par là. Et donc, la conséquence, c'est que nous arrivons à ébullition. Et donc, des guerres, comme elles se déroulent maintenant, je parlais du Congo, mais je peux parler de mon pays natal, l'Éthiopie, dans le nord de l'Éthiopie, 1 million de morts depuis 2021. C'est peut-être la guerre la plus meurtrière du XXIe siècle. Pourtant, on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas d'intérêt économique là-bas. Et du coup, c'est intéressant de dire que tout est dirigé par les intérêts, pas par la bonté de cœur. Personne ne va se lever le matin en disant « Ah, je vais aider les autres ». Et s'ils le font, ce sont des supermen ou des personnes qui sont totalement saines d'esprit.
Mais qu'on tue très vite aussi, je pense à Sankara, il y a plein d'autres. Mais dès que des gens veulent changer la donne, ils se font zigouiller. Lumumba.
Exactement. Lumumba donc, s'est fait totalement assassiner. Donc Lumumba, Premier ministre durant les années 60, en tout cas Premier ministre à court terme, qui va être supprimé justement par... cette américanisation, cette belgicisation, puisque c'est un flamand qui va, Gérard Sweet, qui vient de Anvers, si je ne me trompe pas, ou de Bruges, qui est assassiné et qui a, c'est important de le dire, Lumumba était le père de l'indépendance réelle africaine et il a été dissous dans de l'acide par justement Gérard Sweet, Moïse Tshombe, qui était à l'époque donc le président, en tout cas si je dois dire, le consul, si vous préférez. De l'Est Congo, donc du Kivu, du Katanga, pardon, excusez-moi. Et du coup, c'est important de dire que ces personnes-là ont mangé ensemble, se sont rencontrées. Et il ne faut pas croire que c'est juste l'appartenance ni la couleur qui rejoint les gens. C'est l'argent qui rejoint les gens, les intérêts. Et donc, par rapport justement, pour vous parler de manière plus concrète, tous les téléphones que vous utilisez, tout le caoutchouc qu'on trouve sur les pneus.
Toi aussi, tu l'utilises. Hein.
Moi aussi, tout à fait.
Et vous, nous.
Qu'on utilise. Que vous utilisez, mais je m'adresse aux
spectateurs. Qu'on utilise. Oui, oui, mais moi j'aime bien. Je suis ma maline, mais j'aime bien, ça titille un peu. Parce que j'aime bien dire vous, mais nous, on fait partie du truc, on est aussi dans le bazar.
Exactement. Tu as bien raison de le préciser. Moi-même, je suis le premier justement à consommer ces systèmes, et c'est bien de là que je veux dire que nous sommes totalement dénaturés. Et le problème, c'est que nous sommes dans une spirale, et cette spirale n'est pas prête de s'arrêter, puisque nous voyons les intérêts totalement. Se mélanger justement à notre philosophie personnelle. Et tant que nous n'aurons pas, une philosophie intègre, les hommes intègres, là où je fais référence à Thomas Sankara, je pense que nous ne pourrons pas dormir la conscience tranquille.
Ouais, mais ça n'arrivera pas qu'il y ait plein, qu'on devienne tous intègres et purs. Hein. Ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui se passe aujourd'hui, là, avec la Palestine, c'est quand même incroyable ce qui se passe, non ? Parce que ça fait partie aussi de l'Afrique, la Palestine ? c'est la question.
Alors, la question de la Palestine, je ne suis pas un expert, mais je pense que tout être humain, on doit être sensible à cette cause. Mais non, la Palestine ne fait pas partie de l'Afrique. Mais en tout cas, le combat est lié, puisque ce sont les mêmes personnes que nous combattons. C'est l'impérialisme.
Elle fait partie de quoi, alors, la Palestine ?
Du Moyen-Orient. Et c'est important de préciser que partout, la Palestine, effectivement, est présente, je pense, dans le cœur de tout Africain, tout être humain, tout simplement, à moins que nous soyons, justement, complices de cette escalade de violence. Mais en tout cas, je crois qu'il est important de... En tout cas, pour ma part, moi, mon combat est humain, mais avant tout, il est africain. Et je viens à le préciser, c'est que souvent, on a tendance, justement, à confondre les luttes. Je pense que les luttes doivent faire fusion, mais en tout cas, je pense que les Africains ont tout à fait... ou tout autant le droit et le devoir, en tout cas, de s'avertir, de prévenir justement le chaos qui est en train de s'abattre sur nous, sur chaque être humain. Et donc là, je veux dire par là, il était tout africain de s'informer sur sa langue, sur sa communauté, sur ses croyances, etc., etc. Donc je veux dire par là qu'il est à nous de pouvoir s'informer et de prévenir ce qui peut arriver demain matin.
Ça arrive déjà, c'est en ce moment.
Alors, moi justement, je pense que ça arrive sans arriver. Ça a toujours arrivé. Pour moi, la vie est cyclique. Et donc, ce qui se passe, les guerres, je ne dis pas que c'est normal, je dis juste que c'est une conséquence de non-dit, une conséquence, etc. Donc ça veut dire que si on ne prend pas le problème à sa source, on sera toujours dans cet enfer. Et donc pour moi, la question qui se pose maintenant, c'est chacun doit penser ses intérêts. Et ça ne veut pas dire qu'il faut se diviser, ça veut simplement dire qu'il faut penser qui je suis, dans quel organisme, dans quel écosystème je me situe. Et ça, c'est très important pour moi, en tout cas. Voilà.
Ok, j'essaye de te suivre, hein, Alexandre. Parce que moi j'aime bien quand c'est du concret aussi, parce que là ce que tu dis, bon, c'est un peu conceptuel, quoi, voilà. Mais j'avais juste cette question là juste avant, t'as pas trop répondu, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, avec la Palestine, c'est assez génial ce qui se passe, ça veut dire que il y a plein, t'inquiète, hein, on va pas parler de la Palestine, mais c'est pour dire que il y a quelque chose qui se réveille, quoi, j'ai l'impression, non ? Il y a quelque chose qui bouge, quoi, il y a quelque chose qui dit non, même par rapport aux gens de la rue, quoi, c'est plus simplement un petit groupe de militants ou des... Comment tu vois ça ? Comment tu analyses la situation ? Qu'est-ce qui se passe pour toi, selon toi, quoi ?
Alors, je vais encore certainement peut-être te chambouler, je ne sais pas, mais... Je ne sais pas si tu connais Aimé Césaire. Aimé Césaire, un des plus grands poètes que j'ai pu lire de ma vie, il disait « L'homme blanc s'est aperçu que l'hitlérisme frappait à sa porte au moment où l'homme blanc était touché dans sa chair. » Et ce que je veux dire par là, c'est que partout sur la planète, qu'on soit à Cuba, qu'on soit à Moscou ou qu'on soit à Bruxelles, nos luttes sont les mêmes, les acteurs sont les mêmes. Sauf que l'intérêt qu'il y a derrière la guerre n'est pas le même. Bien que, tout ça pour dire que, oui, je réponds à ta question par rapport à la Palestine, je pense qu'il y a un mouvement de foule. En tout cas, je pense que dans les couches politiques, je pense que tout le monde commence à s'émouvoir justement du sort des Palestiniens, qui en fait est juste un rappel que ce que la plupart...
À s'émouvoir, je dirais, je crois pas que ceux là-haut, en tout cas ceux qui créent les guerres, qui créent les conflits, qui divisent... soient touchés, seulement ils sont bien obligés de se rendre compte qu'il y a plein de gens dans les rues, il y a plein de manifestations dans plein de pays, enfin c'est un peu le bazar, on va dire. Comment, tu vois, j'ai l'impression que c'est plutôt les gens de la rue, entre guillemets, qui font bouger un peu les choses, non? Ou bien...
Mais d'une certaine manière, si je suis l'avocat...
Je crois pas qu'ils soient touchés là-haut, parce que sinon ils arrêteraient aussi même leur méchanceté au Congo, au Yémen, ou je sais pas où, tu vois ce que je veux dire? J'avais envie d'entendre ce que tu pensais, quelle analyse tu fais de ça.
Alors je pense que, moi, mon analyse, en tout cas si je dois parler concrètement, Nelson Mandela prévenait déjà de ce qui se passait, il donnait énormément de soutien à son époque à la Palestine. Thomas Sankara donnait du soutien armé, plein mal de populations. Mais le problème, c'est que, comme je te disais, c'est que ici, en Europe, ici, dans le monde occidental, on s'est aperçu que nous étions les principaux responsables de ce crime, parce que c'est nous qui élisons les différents politiciens. Alors bien entendu, nous sommes tout à fait d'accord qu'une personne cupide, pourrie de l'intérieur sera toujours pourrie de l'intérieur. Mais c'est nous qui faisons ce choix-là d'élire ces personnes-là.
C'est qui le nous ?
Ce sont nous les citoyens lambda. Ce sont nous qui choisissons qui va être élu ici en Belgique. C'est personne d'autre. Et du coup, le fait de dire que nous sommes émus, c'est tout à fait normal. Et pour moi, c'est tout à fait humain de s'émouvoir pour des causes injustes. Mais qui finance Israël ? Qui finance Israël ? Qui les met en place ? Ce sont nous. Ce sont des lobbies.
Ah, tu crois ça, toi ? Tu crois que c'est... Parce que ce soit de gauche ou de droite, aujourd'hui, de toute façon, on s'en fout. Oui, mais donc le citoyen, il est, comme tu parles... C'est secondaire, quoi. Ils mènent leur politique, de toute façon, impérialiste et... Tu comprends, c'est ça, j'ai l'impression que c'est de la rigolade de faire croire que ce seraient les gens qui décident que demain il y ait une politique plutôt de gauche ou de droite, alors qu'en fait, c'est les mêmes politiques qui sont menées depuis plein d'années, depuis un peu la nuit des temps, non ?
Exactement.
Et ça, le pillage de la terre.
Ça, je te rejoins totalement par rapport à ce point de vue-là. Je pense que c'est la souveraineté populaire qui prime sur la politique. La politique, c'est un ramassis de personnes qui se...
Une mafia.
Voilà, qui pètent pas plus haut que leur cul. Mais ça, je pense que c'est facile de dire ça. Mais par rapport, justement, aux actes concrets, c'est à nous d'aller toucher les zones sensibles. Et là, je dis, je n'appelle pas la violence, mais en tout cas, je pense que c'est à nous de faire bloc face aux grandes institutions. Et je n'ai pas eu le temps de développer tout à l'heure, mais avant les années 60, il y a eu ce qu'on appelait les plans de Bretton Woods. Les plans de Bretton Woods, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont décidé de la monnaie, de ce qu'on a appelé maintenant le dollarisme. Et plus tard, en 2000, l'euro. Et le problème, c'est que tant que nous n'avons pas une conscience politique, nous sommes des moutons du système. Et ça, peu importe la gauche, la droite. Dois-je vous rappeler que c'est Jules Ferry qui, sous un élan humaniste, a colonisé nos peuples africains du sud global. Et ça, c'est important de le dire. Alors, la gauche qui se torgue d'être des citoyens, je dirais, plus évolués, plus compréhensibles de l'humain, sont tout ici pourris. Et je le dis très honnêtement, pour moi, il n'y a pas de gauche ni de droite. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix personnel de quitter la Belgique pour un petit temps, parce que justement, je ne me retrouvais plus dans la politique. Voilà, ça c'est plus personnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tous une décision à prendre. Est-ce que nous voulons continuer à alimenter cette pieuvre, cette industrie, ou voulons-nous être au moins conscients? Si nous prenons déjà conscience du rôle que nous avons personnellement, nous pourrons changer la donne. Mais sans ça, nous serons toujours à la merci du néo, et je dirais même du supracapitalisme. Parce que là, nous sommes passés dans une autre ère. Le supracapitalisme, les humains sont totalement déconnectés de la réalité. Et cette réalité, elle est très simple. En bas de chez vous, quand vous vous levez le matin, il y a des gens qui crèvent la dalle. Il ne faut pas aller à l'autre bout du monde, il ne faut pas se prendre pour les messies. En bas de chez vous, vous avez déjà un rôle qui est de conscientiser, qui est de donner un coup de main. Et c'est de là que je voulais dire que les combats sont liés. Et donc, bien entendu, pour répondre à ta première question par rapport à la Palestine, personnellement, ce n'est pas un combat, je dirais, qui est à exclure. Mais en tout cas, mon premier combat, c'est d'abord penser mon intégrité de personne noire. Et ça, c'est important de le dire, femmes et hommes noirs, il est important de faire bloc. Et
là, c'est le même combat, hein, que ce soit la Palestine ou l'Afrique, c'est le même combat.
C'est pas le même combat. Alors, c'est un combat humaniste totalement. Et là, ce sont les grands concepts, etc. Mais la réalité aussi, c'est que les populations africaines ont le devoir justement de s'informer. Et tant qu'il n'y a pas cette information-là qui est faite de manière horizontale, nous serons toujours les derniers roues du carrosse. Et ça, c'est important de le dire aussi.
Mais c'est un même combat contre l'impérialisme, c'est ça que je veux dire. C'est le même combat d'accaparement des terres, de dégommer les peuples. C'est ça que je veux dire. Parce que tu disais non, c'est pas le même combat, tu l'as dit. Oui, moi, je te dis, mais si, tu comprends?
Bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut...
Non, je comprends pas.
Non, bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est
Tu peux ne pas être d'accord, hein, mais moi, comme ça, c'est clair, on comprend bien.
Bien sûr. Alors, ce que je tiens à insister, et je n'ai pas eu le temps de le développer une nouvelle fois, c'était par rapport...
T'as le temps, là.
Okay. Alors, le continent africain, pour vous donner une échelle chronologique, c'est important pour que vous situiez les périodes. L'Afrique n'a pas commencé à partir de la colonisation. Et ça, c'est important de le préciser par rapport aux auditeurs qui ne sont peut-être pas spécialement familiers avec le continent africain. Depuis l'impérialisme que le continent africain a subi, on remonte exactement au 7e siècle, les premières traites arabo-musulmanes. Pendant 14 siècles, le continent africain va subir ce qu'on appelle la traite négrière, la traite des Noirs, ce qu'on appelle en Afrique Maafa. Cette traite a déplacé, a violenté, a détruit. On tourne autour des 100 millions de personnes, juste, entre guillemets, pour la traite arabo-musulmane. Ensuite, va s'abattre sur le continent africain, aux environs du 15e siècle jusqu'à la fin du 18e siècle, ce qu'on appelait la traite transatlantique, le commerce triangulaire, si vous préférez. On partait d'Europe, donc qui, quand je dis « on », ce sont les différents impérialistes occidentaux, donc on partait des différents ports, que vous connaissez certainement, Anvers, pour la Belgique. Il y avait Amsterdam, il y avait Lisbonne, Porto, etc., etc. Je ne vais pas faire toute la liste est tellement longue. Toutes ces zones allaient s'enrichir en Afrique. Bien entendu, pas dans l'humanisme le plus total, dans la violence la plus barbare. Ensuite, allaient chercher, extirper du continent africain, des millions, des centaines de millions de personnes qui vont être envoyées un peu partout sur la planète. Et c'est ce qui va peupler notamment le Brésil, c'est ce qui va peupler l'Amérique latine et les États-Unis. Par ailleurs, ce que je veux dire par là, c'est que la violence ne s'est jamais arrêtée depuis actuellement 15 siècles. Et donc la conséquence est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sur le continent, et j'en reviens d'ailleurs depuis un mois, du Sénégal et du Ghana par avant, cette violence-là s'est répercutée sur les consciences des gens. Comment ? Parce que l'esclavage
et la colonisation... Les consciences des gens là-bas.
Là-bas et ici. Ouais. Et du coup, par rapport à ça, où c'est important de le préciser, c'est que ces conséquences-là n'ont pas juste des conséquences irréversibles, ce sont des conséquences qui vont perdurer dans le temps. Et donc l'esclavage mental et l'esclavage physique n'est pas fini. Et c'est ça que le téléspectateur doit comprendre, et la téléspectatrice. C'est que cet esclavage, nous en sommes aussi les produits non finis. Et du coup, par là, quand je dis que la Palestine, bien sûr que c'est important, mais le combat en Afrique est d'autant plus important.
Non, mais je dis pas, soyons précis avec les mots, je dis pas que ce n'est pas, tu n'as jamais dit que c'était pas important, ni moi d'ailleurs. Je dis que c'est la même bagarre, quoi. C'est le même combat pour l'impérialisme. C'est les tu vois,
bien entendu, oui,
pour les terres, dégommer les gens. C'est la même chose, quoi. Sauf que peut-être, oui, en effet, comme tu dis, il y a cette histoire-là de l'Afrique qui est très profonde, et comme tu dis, c'est très divisé aussi l'Afrique, hein. Il y a plein de pays.
Bien sûr, et là tu as tout à fait raison par rapport en tout cas au continent africain. Il ne faut pas voir le continent comme un bloc monolithique, mais comme la conséquence de siècles, non pas de prédation, puisque bien avant cette colonisation, ces violences, il y a des royaumes, il y avait des royaumes, il y a toujours des royaumes sur le continent africain, mais par rapport à ça, nous n'avons pas, et quand je dis ici on, quand je parle des communautés africaines, beaucoup en tout cas, toutes, ce n'est pas le cas, mais beaucoup, n'ont pas cette vision-là. On a tellement été, là je parle en mon nom, on a tellement été nourris à la paupérisation du continent africain que nous n'avons plus la conscience de penser qu'il y a une grandeur, il y a une intelligence, les mathématiques, les sciences, la philosophie, la médecine, etc. Tout a été créé en Afrique, l'écriture, etc., etc. Et donc, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est qu'il est important de se réapproprier ces histoires.
De la force, quoi, de dire que nous aussi, on est quelqu'un, nous aussi, on a... Oui, oui, ça, j'entends bien. Parce que j'avais envie de faire aussi une petite parenthèse avec le panafricanisme, hein, que c'est né en Haïti. Hein, c'est le premier endroit, paraît-il, hein, tu vois, j'y étais pas. C'est le premier endroit... Où les Africains qui sont justement, qu'on a dégommé de leur terre, de leur histoire, eh bien, se réunissent à Haïti et fondent le panafricanisme, quoi, africain des différents pays du continent, quoi, se mettent ensemble. Tu as envie de dire quelque chose là-dessus ?
Ben, c'est magnifique que tu fasses la passe, on va dire, avec Haïti, parce que Haïti est une terre, comme on pourrait l'appeler, la terre promise du continent africain, parce qu'au final, ce sont des états satellites, si on doit appeler ça comme ça, les Caraïbes en tout cas, la Caraïbe. Et donc, toutes ces populations qui ont été déplacées, et là, je vais certainement toucher les francophiles dans leur chair, Haïti est le premier peuple noir qui a battu l'impérialisme. Comment ? La bataille de Vertière, Toussaint Louverture, un des plus grands empereurs, je vais l'appeler comme ça, parce que ce n'est pas son qualificatif, mais en tout cas, moi, je le considère comme un empereur d'Haïti, a battu Napoléon Bonaparte, qui justement avait cette convoitise, cette envie de s'approprier. En fait, Haïti s'appelait Saint-Domingue avant, parce que c'était divisé avec les Espagnols et toute la bande à yo-yo. Et du coup, la France, voyant justement qu'Haïti est un poumon de la sucrose, donc du commerce du sucre et du tabac, va justement vouloir envahir cette terre-là. Malheureusement, pour les Français, dans ce cas-ci de l'époque, vont repartir la queue entre les jambes. À cette époque-là, l'armée, justement, de plus de 100 000 personnes, va être défaite par ce qu'on a appelé des Negmarans, donc d'anciens esclaves. Donc ce sont des différentes populations africaines qui vont être métissées à travers Haïti. Donc elles venaient d'Angola actuelle, elles venaient du Congo, elles venaient du Cameroun, un peu partout d'Afrique. Et vont se rassembler vraiment autour de cette conception que nous sommes africains avant tout. Et donc effectivement, le panafricanisme a démarré en tout cas aux Caraïbes. Et je vais préciser pourquoi. Parce qu'un siècle avant, il y avait déjà des révolutionnaires vers Bahia, donc au Brésil, qui vont justement se rassembler à Salvador, à Santiago exactement. Et du coup, on va se rassembler et vont créer ces premiers États africains qui vont se défaire du colonialisme. Et donc, le colonialisme remonte déjà à des siècles. Et donc, c'est important de dire que le panafricanisme, cette conception très, je dirais, contemporaine actuelle, va réellement être ravivé. Et là, c'est important de le dire, le panafricanisme, en fait, ce n'est pas une philosophie, c'est une manière de vivre. Et ça, c'est important de le préciser. C'est qu'il faut bien faire attention aussi à l'utilisation qu'on en fait. Ça ne doit pas être juste un mouvement, ça doit être vraiment nucléaire, ça doit vraiment être quelque chose d'organique. Être panafricain, c'est apprendre qui je suis, cuisiner avec sa maman, aider son prochain, c'est vraiment avoir une philosophie de vie saine par rapport à ça.
Mais surtout, moi, ce que j'en comprends, c'est que c'est l'origine du « mettons-nous ensemble ». Je dis ça parce que je ne l'ai pas encore lu, mais ça me donne envie. Si tu connais Hamzat Boukhari Yabara,
bien sûr.
Voilà, il a fait une histoire du panafricanisme. Et lui, il raconte vraiment, et moi, ça, j'aime bien, à la base, c'est du combat. C'est de se dire « Africains, mettons-nous ensemble, soyons plus forts ». Et même avec les pays arabes, tu vois, parce qu'on posait la question, est-ce que l'Algérie fait partie du continent africain? Et lui, ben oui, évidemment, tu vois.
Mais déjà, respect à l'ancien, respect, parce que Hamzat, tu as vraiment été un père spirituel pour moi, et ça je te le dis, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Ouais. En tout cas, ce livre est ma Bible, si je dois parler de manière synthétique, syncrétique. Et du coup, par rapport à ça, cet ouvrage est une vraie, anthologie des différentes populations africaines et en tout cas de ce qu'est le panafricanisme. Alors chacun a sa conception, je pense, et ça c'est aussi, je pense, subjectif. Je pense qu'on peut tous avoir une vision différente, ce n'est pas ça le souci. Le fait est de se dire que c'est l'unité africaine qui prime avant tout.
C'est aussi l'idée, en tout cas moi ce que j'en ai compris, c'est l'idée de se mettre ensemble pour être plus fort, quoi.
Exactement. Et c'est cette force-là, je pense, qui nous unit, tout à fait. Et ce combat-là, je pense que c'est un combat quotidien. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas simplement être sur le continent. Je pense qu'ici, en Belgique, dans le monde, tout simplement, il y a cette sororité qui doit résonner à travers les époques. Mais pour comprendre les époques précédentes, il faut s'informer, sortir de cette zone de confort. Et le combat, en fait, n'est pas juste physique, il est aussi mental. Il est avant tout même mental. Et du coup, par rapport à ça, lire des pères spirituels, des mères spirituelles, c'est très important. Et lorsque je parle de spiritualité, encore plus, je pense que le continent africain est sujet à la spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels. Mais par là, j'entends qu'il est important de pouvoir comprendre quels sont les messages, quelles sont les positions que l'on doit adopter pour l'avenir. Et lorsque j'entends régulièrement, vous les Africains, vous vivez dans le passé, vous êtes bloqués sur la colonisation, l'esclavage, justement, ce sont des résidus coloniaux. Tant que nous n'apprendrons pas qui nous sommes et qui nous a enchaînés, nous ne pourrons pas nous désenchaîner. Et là, c'est important de comprendre que le rôle que chacun a commence d'abord dans son propre foyer, en se regardant dans la glace, qui je suis, que puis-je apporter à ma communauté, comment puis-je nourrir mes enfants décemment, comment puis-je les éduquer.
Mais comment, t'as du boulot à proposer aux gens? Ah ouais, c'est pas si facile que ça, des fois, hein, trouver du boulot quand t'as pas de papier, quand t'es noir, on le sait.
Bien sûr. Mais du coup, la première chose que je vous conseillerais, c'est de lire l'honorable Marcus Garvey. Marcus Garvey a tout synthétisé. En 1906, il a synthétisé tout ça dans un livre. Et je pense que c'est important de dire que ces racines, ce déracinement, il ne pourra être que, justement, un salut pour nous lorsque nous prendrons conscience que nous avons un rôle à jouer sur cette planète. Avant tout, c'est de pouvoir, personnellement, savoir d'où je viens. Lorsque je sais d'où je viens, je sais plus facilement où je pourrais aller. Sans ça, nous serons à la merci de tout le monde. Et donc je tiens à préciser que peu importe que nous sommes africains ou pas africains, les Algériens sont africains, c'est un fait factuel, sinon ils ne seraient pas sur le continent africain. L'Égypte est africaine, le Maghreb est africain. Alors les heurts qui se déroulent, les violences qui se déroulent envers les populations mélanodermes, mélanodermes, donc noires tout simplement, parce que le noir ça veut rien dire, ça veut tout rien dire, noir. En tout cas mélanoderme, c'est de la mélanine concrètement. Dans les zones telles que Melilla, au Maroc, Ceuta, au Maroc, et toutes ces zones qui sont sensibles, hostiles aux populations africaines, c'est parce que justement, elles ont bu les paroles coloniales. Et donc le combat est le même pour tout le monde sur le continent africain. Et donc, tant que nous ne ferons pas bloc, l'Algérie est panafricaine, et même panarabiste si on veut aller plus loin dans la philosophie. Et donc par là, Saïd Bouamama a vraiment écrit énormément sur le sujet, même Hamzat Boukhari, et je pense que ce sont des références qui parleront mieux que moi de ce sujet-là. Mais donc, c'est un faux débat, selon moi. Est-ce que l'Algérie est africaine ou pas? C'est parce que, justement, nous n'avons pas assez absorbé les paroles de Frantz Fanon que nous sommes des...
C'est c'est pas un fond débat. Concrètement, c'est clair que c'est une vraie question, hein, parce qu'il y a du conflit, parce que c'est compliqué, parce que les Noirs et les Arabes... Tu vois, c'est une vraie question. Alors, on aimerait bien, comme ça, conceptuellement, de dire que tout le monde saint, mais que tout est parfait. Mais concrètement, il y a un problème. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Dans le pragmatisme, je pense que personne n'a choisi sa famille. Nous sommes sur le même bateau. Nous avons tous de différents. Ça fait partie de l'être humain. Je pense que moi-même, le premier, je me lève le matin, c'est possible que j'ai des différends avec ma femme, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait est que nous sommes sur le seul continent, le continent mère. Et tant que nous ne prendrons pas conscience de cette force, de ce moteur de la planète, parce que là, tout Africain est le moteur de la planète. Et ça, c'est important de comprendre que, au-delà des sols, au-delà de l'histoire, c'est le monde qui a commencé en Afrique. Et le monde se terminera en Afrique.
Amen.
Et du coup, par rapport à ça, c'est très important de ne pas tomber dans des conflits d'ego. C'est l'ego justement qui nous enferme depuis des siècles. Et je pense que c'est cette prédation-là internationale, régionale, continentale. Peu importe où nous sommes, c'est nous qui sommes le capitaine de notre âme. Personne d'autre. Et du coup, par rapport à ça, je veux dire que le combat se fera sur le long terme. Ce n'est pas un combat qui se fera demain matin avec une bombe nucléaire. Et si c'est le cas, nous ne serons plus là pour en discuter. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Algérie a subi une colonisation violente, comme tout le continent africain a subi une colonisation violente. Et du coup, par là, je pense qu'il faut penser les maux d'hier et voir l'avenir ensemble. Et chaque jour, je vois sur le continent, en tout cas lorsque j'y étais, et lorsque je retournerai, des projets durables. Et c'est cette durabilité que je pense qu'on va pouvoir anticiper, préparer l'avenir. Les jeunes générations sont hyper motivées. Les jeunes ont vraiment cette soif d'apprendre. Et je pense que c'est de là, justement, que le salut pour tout le monde arrivera.
Il y a 35 minutes. En gros, 10 minutes encore. Est-ce que tu vois quelque chose d'essentiel que tu as envie d'aborder, là? Parce que voilà, il y a l'espace pour, de profiter du micro, que des gens vont entendre, pour parler de quelque chose de très précis sur l'Afrique que moi,
Moi, j'aime toujours parler, en tout cas, du physique, ou en tout cas, des faits, tout simplement. Pour avoir peut-être une vision peut-être moins conceptuelle, peut-être plus pragmatique, je pense qu'un auteur, en tout cas une personne qui m'a beaucoup inspiré, c'est Spike Lee. Je pense qu'à certains niveaux, il a su faire grandir en moi cette soif d'apprendre, notamment avec sa filmographie, avec notamment un film que j'ai apprécié, que j'ai partagé récemment sur les réseaux sociaux, To the Right King. C'est un super film qui aborde justement ces concepts, ces réalités, cette violence, cette intersectionnalité comme on la discute aujourd'hui. Et donc je pense que c'est aussi via la filmographie. Il ne faut pas simplement lire. On peut écouter de la musique. Il y a énormément, via le reggae notamment. Le reggae m'a beaucoup inspiré. Bob Marley est le plus classique. Je pense que via la musique, via ces âmes, comme disait Webb Du Bois, les âmes du peuple noir, on peut comprendre la douleur du monde. Et donc c'est cette douleur-là qui est partagée par tous, en fait. Nous subissons tous la violence, peu importe où nous sommes sur la planète. Et donc c'est d'abord...
Tu le disais au début, hein, qu'il y a des gens qui valent moins que d'autres sur la Terre. Tu disais... Oui, tu disais... Mais moi, je suis assez d'accord.
Je dis des gens plus cupides, des gens plus, je dirais, intéressés.
Non, mais je veux dire, on a compris que c'était l'Occident qui avait fait son malin en colonisant un peu partout sur la planète, quoi. Ils pensent qu'aujourd'hui, la guerre à Gaza, on voit des images en live comme ça d'enfants. Tu vois qu'il y aurait des vies qui valent moins que d'autres, et c'est l'Occident un peu qui décide ça.
D'une certaine manière, mais l'Occident n'est pas le maître du monde. C'est justement une conception qui est biaisée, qui est erronée. Par contre, l'Occident a fait croire au monde qu'ils étaient le centre. Et c'est ça le leurre de la planète. Et du coup, par rapport à ça, l'homme occidental, ça fait quelques siècles, même pas un millénaire qu'il est sur la Terre. Et du coup, par rapport à ça, c'est important de préciser que tous les peuples de la planète, qu'on soit au Moyen-Orient, qu'on soit en Asie, en Chine, qu'on soit partout sur la planète, l'homme blanc est inférieur, non pas en tant que personne, mais inférieur démographiquement. Et du coup, au niveau de l'échelle internationale, si on parle de manière quantitative, les Asiatiques, les Africains, le Moyen-Orient, nous sommes plus démographiquement. Par contre, Le fait de dire qu'il y a des gens moins importants, c'est pas vrai. Par contre, elle se pense essentielle. Et c'est à nous de montrer que ces gens ne sont pas essentiels à notre existence, à notre survivance, si on préfère. Et du coup, par rapport à ça, ce qui est important de dire aussi, c'est que pour se comprendre, il faut aussi comprendre en quelque sorte les enjeux qui se dessinent derrière les médias. Je pense que beaucoup de personnes utilisent, consomment les médias, et des fois font des overdoses de médias parce qu'il y a une surinformation. Et du coup, par là, il faut être sélectif. Sélectif, non pas... refouler certains médias, mais en tout cas il faut comme faire appel à toi, faire appel à des personnes qui sont désintéressées. Et c'est ce désintérêt non pas pour l'humain, mais pour la cupidité, l'avidité qui tient ces populations qui sont pourries de l'intérieur. Et quand je dis ça, c'est que l'Occident n'est pas le seul responsable, comme je vous le disais au début. Il y a énormément de personnes, que ce soit durant les années 60, pour reprendre le continent africain, ou que ce soit partout sur la planète, qui se sont enrichies avec certaines populations occidentales. Mais je différencie bien, je distingue bien, et vous devez surtout distinguer, d'une part, l'élitisme cupide de la personne populaire, si je dois dire ça comme ça. Donc la majorité de la population mondiale n'est pas pourrie. C'est une infime partie qui est pourrie. Et c'est ces subtilités-là qu'il faut avoir à l'esprit toujours lorsqu'on est dans la militance. Sinon, on se bouffe soi-même. Et c'est ça qui est, je pense, important pour, peu importe le combat qu'on veut mener, peu importe la lutte, la philosophie, etc. C'est toujours avoir ce recul nécessaire. Et donc lorsque je dis l'Occident responsable, ce sont les dirigeants politiques. Mais ces dirigeants-là sont là pour une raison. Il faut s'entendre. Et du coup, par là...
Ils sont là pour une raison, ça veut dire que tu reviens vers le vote, on les a choisis. C'est ça que tu as l'air de dire.
En partie.
Alors, mais non, ils ont été là, si tu reprends la discussion, depuis l'origine, ils sont là par la force, hein.
Oui, mais par la force. Mais
après, nous... on a inventé le vote pour faire croire que les gens... Tu vois, mais là, ils sont là par la force. Ils ont dégommé les peuples, ils ont dégommé les gens.
Ils ont dégommé, c'est un peu facile, entre guillemets, de dire...
C'est l'histoire, avec un grand H.
L'histoire, ce n'est pas ça. L'histoire, comment est-ce qu'elle est? Il y a, en général, effectivement, une personne qui prend le pouvoir. Cette personne prend le pouvoir, comment? Elle ne le prend pas toute seule. On est quelqu'un grâce aux autres. Du coup, par rapport à ça, ce sont les militaires, ce sont les forces armées, les petites mains, les sbires, les personnes qui sont là pour aiguiller le système. Mais la personne décisionnaire, elle, est toujours dans son bunker et est toujours dans sa bulle de verre. Oui. Et du coup, si la volonté populaire prime sur, justement, une élite, cette élite tombera.
Non. Des fois, oui. Des fois, non. Ouais,
ça, c'est la
plupart, la... Oui, mais la plupart des révolutions dont on parle... Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, mais ce n'est pas si simple que ça. Et au départ... Mais tu vois, ça, c'est nous, notre discussion. On parle d'un truc et puis on part sur autre chose. Moi, je disais que l'élite, ceux qui sont là-haut, ceux qui créent les guerres, ceux qui pillent, ceux qui... Ils sont là par la force. C'est ça que je disais. Et puis après, on parle d'autre chose. Ils sont là par la force.
Ils sont là par la force, mais la force, ils n'ont pas créé la force.
Ils ont d'abord, dans l'histoire avec un grand H, on peut lire qu'ils ont dégommé les peuples, ils ont pris possession.
Qui sont-ils? Parce que ce n'est pas le... Je ne sais pas, moi, si on prend Charles de Gaulle, il n'a pas été faire la guerre, Charles de Gaulle.
Non, mais il l'a fait faire, tu vois ce que je veux dire.
Qui sont ces personnes qui l'ont fait faire? Qui l'a fait? Ce sont les soldats, les petites mains.
Et coup, oui, les petites mains, mais à l'origine, qui a décidé? Moi, c'est ces gens...
Tout à fait d'accord avec
ça. On a tous les mains dans la merde, hein, ça c'est sûr, mais il y en a, ils l'ont vachement plus, quoi.
C'est pour ça que je dis que tout à fait ces personnes en haut de la pyramide sont les principaux cerveaux, si on doit appeler ça comme ça, si tu préfères. Mais après...
Mais ils ont été là par la force, ils sont là par la force, quoi. Ils ont... Je veux dire, si demain, voilà, on aborde ce sujet-là, si demain les peuples se disent on veut plus qu'ils soient... Regarde Macron, je veux dire, il y a eu les gilets jaunes. C'est pas si simple que ça de tirer les gens de là où ils sont, parce qu'ils sont là déjà à la base, ils doivent pas y être. Ils sont là par la force, tu vois. Et il y a le militaire qui les défend, qui défend ce système. Enfin, tu vois, c'est...
Oui, c'est tout un système.
C'est par la force,
c'est
quoi.
C'est l'industrie. Là, on est là. Je veux dire, par rapport à ça, on est d'accord, la force. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tant que le citoyen ne prendra pas conscience de sa propre force, cette force-là primera sur la volonté populaire. Et c'est ça que j'essaie de te dire. Et du coup, par là, c'est que, bien entendu, c'est la face visible, entre guillemets, de l'iceberg. Le président, l'institution... l'instance, mais c'est aux citoyens d'inverser la courbe. Et bien sûr, le combat sera long. Et bien sûr, nous ne le verrons peut-être pas nous verrons peut-être pas cette justice populaire.
Non, mais il faut continuer. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut continuer à se battre, tu vois. Mais c'est pas à armes égales aussi. Hein.
Bien entendu. Mais ça, si c'était le cas, je pense que voilà, il n'y aurait plus de débat. D'une certaine manière, ces personnes-là seraient totalement, je ne dirais pas supprimées, mais n'auraient aucune force publique ou aucun tremplin, en fait, tout simplement. Mais c'est parce que justement, elles triangulent tout le système, que ce soit les médias, que ce soit les lobbies, les firmes, que ce soit, actuellement on peut parler, je ne sais pas moi, des grandes instances, ben bref, tout est triangulé.
Tout se tient quoi.
Tout se tient, voilà. Et donc je pense que c'est je prenais la métaphore tout à l'heure de la pieuvre, mais c'est exactement vers ça que je pense qu'il va falloir supprimer les pattes de la pieuvre, mais malheureusement, quand on en supprime une, l'octopus il va directement avoir une autre patte. Et du coup c'est ça le problème. Et tant que, je pense, nous serons toujours dans cette spirale et dans ce flou, parce que c'est un brouillard totalement, je pense que nous détruirons, nous nous saboterons en fait. Et c'est ça en fait la difficulté, je pense, pour le citoyen lambda, si je dois appeler ça comme ça. Mais croyez en vous. Et c'est important, tant qu'on ne croiront pas en nous, bah, ils pourront faire ce qu'ils veulent de nous. Et c'est ça que je veux dire, continuons cette lutte, et moi je crois, simplement.
Alexandre Michaud, t'as quel âge toi?
29 ans.
Ouais, tu l'avais dit au début ça. Et quoi, du coup... Il nous reste un petit peu de temps pour terminer. Toi, tu as fait tes études à l'ULB.
Oui, bah, à l'ULB, voilà, j'ai eu, je sais pas si cette opportunité-là, en tout cas, de les faire. Alors,
c'était bien.
Très bonne question. Dans le milieu académique, je pense que, même actuellement, si tu veux refaire le lien avec tout à l'heure avec Rima Hassan, je pense que c'est toujours du politique. L'académique est politique. L'objectivité tant vantée par les sciences en général occidentales, je précise, ne veut rien dire, c'est de la bullshit. L'objectivité ne veut rien dire, nous sommes politiques, nous sommes des êtres politiques et philosophiques. Tant que nous ne comprendrons pas ça, nous n'aurons pas de débat fertile. Et c'est ça que je reproche certainement au milieu académique, c'est qu'il n'est pas prêt à entendre. Juste le fait de débattre, c'est être prêt à entendre. Mais tant qu'on détruit le débat, tant qu'on n'est pas prêt à avoir un débat, que ce soit avec la jeunesse surtout, ou que ce soit même avec, je dirais, de manière intergénérationnelle, le savoir sera toujours détenu par une minorité. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est un reproche que j'adresse frontalement à l'ULB, même si, effectivement, j'ai pu avoir des débats. Ces débats sont réellement...
Ouais, avec des profs, tu veux dire?
Entre autres, avec des profs, des intervenants, etc. Alors, je ne suis pas là pour casser du sucre, mais je suis là juste pour constater en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant noir, je précise une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la même démarche. Énormément d'étudiants sont totalement restreints dans leur démarche intellectuelle. Pourquoi ? Parce qu'on les redirige régulièrement, que ce soit pour des recherches, que ce soit pour des ressources qu'on collecte, puisqu'il y a une inégalité en termes de recherche. Pourquoi ? Parce que le savoir, une nouvelle fois on en revient au même problème, est détenu par le Nord, par l'hémisphère Nord. Et on ne considère pas le savoir de l'hémisphère Sud, alors qu'il est un puits sans fond. Ce puits, justement, est inestimable. Et tant qu'il sera pillé, nous ne pourrons pas faire un débat fertile concret, puisque les faits, et si je reprends notamment peut-être une des plus grandes conférences en histoire, l'honorable Cheikh Anta Diop, paix à son âme, un des plus grands intellectuels sénégalais africains, a été un des premiers pourvoyeurs, je dirais, d'une intelligentsia africaine des années 60. Il a tenu des débats frontaux, notamment autour de l'égyptologie, autour de l'intelligence africaine, etc., des intelligences. Et il était totalement réfuté, selon la bien-pensance européenne. Et ce père spirituel, cette Bible vivante, nous a enseigné énormément d'enseignements. Tant que nous ne nous récaparons pas, tant que nous ne nous reprendrons pas notre intelligence, nos savoirs, nous serons totalement sous la jougue de l'oppresseur. Et ça, cette pensée-là, cette philosophie-là, il est important pour tout Africain, pour tout Palestinien, pour tout Chinois, pour toute personne sur la planète, d'arracher son patrimoine culturel. Et ça, je prends ces mots, arracher son patrimoine culturel. Sinon,
mais comment faire ces études à l'ULB qui racontent l'histoire, tu vois ?
Aller sur le terrain comme nous faisons maintenant.
Comment tu t'es formé, toi ? Comment t'as trouvé les bouquins ? Comment t'as fait, toi ?
Ben déjà, c'est une longue lutte personnelle. C'est une lutte personnelle, déjà identitaire. Le fait, comme je te disais au début, c'est... Lilian Thuram m'a beaucoup inspiré via son livre. Tupac Shakur m'a beaucoup inspiré via sa musique. Malcolm X m'a beaucoup inspiré via sa philosophie. Hamzat Boukhari, de manière contemporaine, m'a parlé de l'anthologie africaine.
Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a qui... Comment trouver la vraie histoire de l'Afrique ? Parce qu'on te la raconte aussi, tu vois ce que je veux dire, quand je dis la vraie.
Aller à sa source.
Oui, mais où tu la trouves quand tu ne sais pas qu'elle existe, hein, tu vois.
Tu prends un billet d'avion, tu vas à Niamey.
Il faut déjà, ouais, là
si
c'est
tu
déjà...
Si tu as l'opportunité, tu vas questionner ici, par exemple à Bruxelles, il y a beaucoup d'anciens qui sont ici à Bruxelles. Il faut aller y aller dans des réseaux, je peux vous envoyer pas mal de réseaux, par exemple des réseaux panafricains. Moi j'ai travaillé notamment pour le comité Oujama, qui est notamment présent un peu partout dans Bruxelles. Il y a le Kilimandjaro qui est présent à Ixelles. Il y a le Binabi qui est aussi présent à Bruxelles. Il y a énormément de collectifs africains. En tout cas, là, je parle juste aux Africains. C'est ce que je connais le mieux. Ici, il y a notamment, on peut parler maintenant, il y a un supermercado, bar, etc., qui s'appelle le Kodjo Market, qui est à côté de la place Flagey à Bruxelles.
Qu'il y a moyen, c'est accessible, moyen, quoi.
La plupart, en tout cas, malgré les moyens, voilà, il y a toujours moyen. C'est cette soif d'apprendre, cette envie d'apprendre, de se dépasser. Tant qu'il n'y a pas cette soif-là, je pense que nous serons des personnes sans fond, des coquilles vides. Et du coup, par rapport à ça, je pense que c'est important de sortir de sa zone de confort, ne pas avoir peur d'aller questionner, aller voir des conférences, aller questionner ses parents, aller demander aux grands frères, aller voir des mamans qui sont en train de cuisiner, aller voir des musées, collecter toute cette information-là, YouTube. Il y a énormément d'informations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et ce sera à vous de faire le choix. Je ne pense pas qu'il y ait une Afrique. Et là, c'est justement le doigt dans l'œil qu'on se met. Je pense qu'il y a des Afriques. Et c'est important de dire ça, c'est qu'il faut collecter, mettre, entrecroiser les informations. Je ne dis pas que le savoir académique n'est pas important. Il est très important pour donner une rigueur, une pertinence. Mais il n'est pas essentiel à la compréhension du monde. Le plus essentiel, c'est d'aller vers les gens. Moi, j'ai pris un billet. Alors oui, j'ai pris un billet par mes moyens. Le combat, il est par ses moyens. Les autres ne pourront pas nous financer. Il faut s'autofinancer, travailler, mettre de l'argent de côté, essayer de travailler pour retourner vers le continent. Peu importe où vous allez sur le continent, vous serez nourri d'informations. Peu importe où vous irez sur la planète, vous serez nourri. Que ce soit au Brésil, en Argentine, en Australie, au Japon, partout vous serez nourri. Le tout, c'est de voir la vie sous un autre prisme, sortir de sa zone de confort. C'est très important. Ça, c'est peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner. Mais la lutte continue.
Et dernière chose, parce que Michotte... C'est pas très africain, ça. Hein. Les gens ils vont se dire, qu'est-ce qu'il nous raconte, là ? Mais évidemment que c'est tellement... L'histoire est tellement complexe, avec tous ces rebondissements, toute cette colonisation, toute cette histoire de dingue.
Alors moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous pourrez suivre mes réseaux. C'est Africa Moi. AFRIKAMWA. C'est le nom que je me suis attribué sur les réseaux sociaux. Vous pourrez suivre toute mon histoire personnelle, intime. Alors moi, je suis éthiopien. J'ai été adopté et donc de mon déracinement, puisque je pense que tout être africain est déraciné, tout être humain est déraciné, j'ai fait ce choix personnel. C'est une quête de vie que je mène et donc vers mes aïeux, vers mes ancêtres, vers ma vie à l'avenir, vers mes enfants. Et du coup, par rapport à ça, je pense que le nom, c'est un matricule qu'on donne aux gens, mais ça ne veut rien dire. C'est une coquille vide. Et donc, tant que nous n'explorons pas notre soi intérieur, nous serons morts sur place. Et donc, je pense que moi, mon nom, je ne l'ai pas choisi. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas d'où on vient. Par contre, j'ai fait le choix personnel de repartir vers mes origines. Et du coup, je pense que c'est une effervescence, c'est une magnifique, je dirais, quête, en tout cas, que je suis en train de mener, avec des hauts et des bas, c'est important de le dire. Les bas ne font pas que c'est un échec. Les bas, justement, nous permettent de rebondir. Et comme tout Éthiopien, la vie est un marathon. Et comme nous sommes les plus forts au marathon, il faut comme le dire, eh ben, le combat ne se fait pas en un sprint. C'est sur le long terme qu'on pourra justement voir les vrais visages des gens, voir qui nous sommes intérieurement, être la meilleure version nous-mêmes, avec des enfants, je pense en tout cas, qui seront avertis, prévenus, mais nous ne pourrons pas faire face aux aléas tant que nous ne serons pas prêts. Et être prêt, ça veut dire commencer par la lecture de Marcus Garvey, finir par la lecture de Hamzat Boukhari. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma vision de la vie, et je pense que voilà, votre choix intérieur sera dicté certainement par vos valeurs, votre manière de vivre, etc. Mais je ne suis personne pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, c'est juste un conseil. Voilà. Sur ce, merci beaucoup.
Merci à toi. Et tu vas être papa. On te souhaite de bons... Comment on dit ça ? Comment on dit ? Que ça se passe bien, quoi. Que, hein, ça, oui, voilà.
Le bonheur. Et aimez-vous. Aimez les vôtres. Aimez tout le monde. Et voilà.
Merci à toi. Hein.